Il est 6h43, les acteurs de l'actualité sont sur Europe 1. Sébastien Krebs, vous recevez à présent Catherine Hill, épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif.
Bonjour Catherine Hill.
Bonjour.
Merci de prendre un moment ce matin pour éclairer les auditeurs d'Europe 1. On se pose tous beaucoup de questions face à ces chiffres de l'épidémie et sur cette rentrée à venir. Le nombre de nouveaux cas en 24 heures a dépassé les 3000. Cette accélération, elle est nette. Paris et Marseille sont passés en zone de circulation active. À quel niveau d'inquiétude vous êtes, vous ?
Je suis plutôt inquiète. Parce que, de toute façon, tous ces nombres qu'on nous donne, ça n'est que la partie émergée d'un iceberg. Ce sont les cas qu'on a testés. Mais il y a tous les cas qu'on n'a pas testés et qui échappent au radar.
Est-ce que l'épidémie est à nouveau en train de nous échapper, comme c'est arrivé en mars ?
Pas vraiment, ça. On n'a jamais contrôlé l'épidémie. Il y a des chercheurs de la Sorbonne et d'INSERM qui ont fait une estimation du nombre de cas qu'il y a vraiment eu entre le 12 mai et le 28 juin, entre la fin du confinement et la fin du mois de juin. Pendant ce temps-là, on a identifié un peu moins de 7000 nouveaux cas symptomatiques et on pense que pendant ce temps-là, il y en a eu à peu près presque 70 000. Donc en fait, on ne voit ce qu'on vous raconte, les nombres de cas qu'on vous raconte, peut-être qu'il faut les multiplier par 10 pour avoir la vraie
sauf qu'aujourd'hui, on teste malgré tout beaucoup plus. On va parler des tests. Peut-être d'abord un mot de ce masque qui s'impose de plus en plus dans les villes. À Paris, ce port du masque obligatoire a été étendu à un certain nombre de quartiers. Certains quartiers, mais pas d'autres. Certains parcs, mais pas tous. Les Champs-Élysées, mais pas le boulevard Haussmann au grand magasin, par exemple. Est-ce que vous y comprenez-vous quelque chose, ce plan de Paris en gruyère? Est-ce que ça vous paraît clair ou est-ce qu'il faudrait clairement l'imposer partout et ce serait plus simple?
Imposer, mais en tout cas, il faut expliquer qu'il faut porter le masque partout, parce que sinon, c'est incompréhensible, c'est cafouillage sur cafouillage. D'abord, on nous a dit que les masques servaient à rien, ensuite, on a dit qu'ils servaient un peu, ensuite, maintenant, il faut les mettre presque partout, mais seulement là où on vous dit de le mettre et pas ailleurs. Ça n'a ni queue ni tête, c'est cafouillage total. Il faut un discours simple, porter un masque, parce que mon masque vous protège et votre masque me protège. Il y a énormément de portes. La moitié des contaminations viennent de gens qui sont asymptomatiques, donc ils ne savent pas qu'ils crachent du virus autour d'eux. S'ils ont des masques, ils vont protéger ceux qui sont en face. Et si vous voulez que celui qui ne sait pas qu'il est contagieux porte un masque en face de vous, il faut que vous ayez un masque aussi. Donc tout le monde doit porter un masque. Et c'est tout simple comme ça. Et c'est ce qui a marché dans les pays où on a contrôlé l'épidémie.
Les jeunes, le virus circule trois fois plus chez les 20-29 ans que dans les autres tranches d'âge. Pourquoi ces messages de prévention ne passent mal au sein de ces générations plus jeunes et comment on peut mieux faire, selon vous?
Mais je ne suis même pas sûre que ça soit vrai qu'il y ait plus de virus chez les jeunes. Je pense qu'on a probablement plus testé les jeunes. Et ça dépend entièrement de où on teste, quand on teste.
Donc, si on a quand même vu des jeunes faire la fête cet été dans des bars sans masque et sans distanciation. Ça, on l'a vu.
Mais oui, mais vous croyez vraiment que les vieux sont beaucoup plus raisonnables? J'y crois pas du tout. Vraiment, je ne suis pas du tout convaincue de cette histoire. Et cibler les jeunes, ça, c'est vraiment une erreur parce que ceux qui sont vraiment malades et qui sont beaucoup plus à risque de mourir, ce sont les plus âgés. Donc franchement, tout le monde doit faire attention parce que tout le monde croise des gens d'âge différent. On croit que les jeunes ne vivent qu'entre eux. Ils vont aussi au supermarché, ils vont aussi croiser des gens plus âgés dans leur famille, même les parents de leurs amis, etc. Donc si on devait se focaliser sur des gens, ça serait plutôt sur les plus âgés, tester massivement dans les EHPAD, le personnel et les gens qui sont dans les EHPAD, ce serait nettement plus efficace.
Donc, comment vous jugez la communication du gouvernement en ce moment et ce message à tous de se ressaisir, puisque c'était les mots de Jean Castex il y a quelques jours?
Mais ça, c'est quand même assez formidable. On essaye de dire aux gens qu'en fait, c'est de leur faute ce qui se passe. Alors qu'on n'a jamais fait ce qu'il aurait fallu faire depuis le début, c'est-à-dire tester massivement la population pour trouver les gens qui sont contagieux, pour les trouver vite, pour les isoler vite, avant qu'ils aient le temps de contaminer autour d'eux. Or, c'est absolument pas ce qu'on fait. On teste les gens quand ils deviennent symptomatiques, et encore lentement, on leur donne les résultats trois jours après, et du coup, ça ne sert absolument à rien.
Mais aujourd'hui, le système explose. Les laboratoires, à Paris, par exemple, 3 ou 4 heures d'attente devant un laboratoire. Comment le système va exploser à la rentrée? On est au mois d'août.
Mais il faut l'organiser autrement. Il faut au lieu de mettre la police à mettre des amendes aux gens qui ne portent pas leur masque dans telle rue, et dans cette rue-ci et pas dans cette rue-là, on peut les utiliser à canaliser le système. Il faut faire des drive-in, il faut que ça soit, qu'il y ait des barnums au pied des immeubles, il faut faire des trucs qui marchent, il faut que le test aille aux gens et pas que les gens aillent au test. Et
il faut par exemple aller tester les gens sur les plages en ce moment, il faut aller tester avant que les gens rentrent de vacances, aller les tester.
Mais pourquoi choisir les plages plutôt que les endroits de travail, plutôt que les hôpitaux, plutôt que les EHPAD? Il faut réfléchir un peu à où est-ce qu'on veut tester en priorité. On veut tester en priorité où le virus circule le plus. Le virus circule le plus dans le Grand Est, en Île-de-France. Ce qu'on a comme information dépend trop des stratégies de test. Donc ces informations-là sont pas très bonnes. Il faut vraiment faire attention. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est la vitesse à laquelle les choses se passent. Quelqu'un est contaminé un jour. Il devient contagieux très vite, le lendemain, le jour même, le lendemain. Les symptômes arrivent en général, en moyenne, 5 jours après la contamination. Et 5 jours après les symptômes, la plupart des gens ne sont plus contagieux. Donc si une personne attend d'être symptomatique pour aller voir son médecin, va voir son médecin le 6e jour, un jour après les symptômes, arrive à être testé le 7e jour, ce qui est déjà une prouesse, et a les résultats 3 jours après, c'est-à-dire le 10e jour, c'est trop tard. Il apprend qu'il est contagieux au moment où justement il n'est plus contagieux.
Donc il faut que les tests aillent aux Français, c'est ce que vous nous dites ce matin, plutôt que les Français fassent la queue devant les labos, il faut que les tests aillent vers eux, donc au pied des entreprises, dans les quartiers, sur les lieux de vacances éventuellement, ou à l'université, puisque la rentrée va avoir lieu.
Mais en commençant par les endroits les plus chauds, où on veut vraiment que le virus ne rentre pas, et ensuite en étudiant autour des cas. Mais il faut faire une énorme campagne de dépistage, parce que sans ça, on ne va jamais s'en sortir. Le virus est partout dans le pays.
Combien de temps nous reste-t-il pour réagir, selon vous, avant que la situation ne devienne vraiment incontrôlable?
Ah, ça, on ne peut pas du tout savoir. Parce qu'on peut être amené à reconfiner, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. Tel qu'on s'y prend là, d'une façon tellement bizarre, avec des idées qui partent dans tous les sens, ciblées sur les jeunes, les trucs les plus bizarres, on ne peut pas du tout savoir ce qui va se passer.
Vous parlez de reconfinement, on va devoir en arriver là, vous pensez? Un reconfinement.
Non, moi, ça ne sait pas, je ne peux pas savoir. On peut vraiment pas savoir. Mais en tout cas, dire aux gens, ça dépend de votre comportement, ça c'est vraiment un tiers du truc. Les masques, c'est un pis-aller. La solution, ce sont des tests. Et on n'a jamais eu une stratégie de test raisonnable. La ville de Paris va organiser des tests à la rentrée. Mais pourquoi pas demain? Qu'est-ce qu'on attend?
Est-ce que vous estimez qu'il faudrait, à la rentrée, une fois que chacun sera rentré de vacances, limiter à nouveau les déplacements entre régions?
On sera peut-être, oui, ça ne serait pas déraisonnable, mais ça ne sert à rien de confiner les gens. Le risque que vous avez d'attraper une maladie, c'est le nombre de gens, dépend du nombre de gens que vous croisez, le nombre de gens nouveaux que vous croisez. Si vous croisez toujours les mêmes gens, et qui restent eux-mêmes croisent à peu près les mêmes, le virus va avoir peu de chances d'arriver dans cette affaire. Mais si vous croisez tout le temps des gens différents et nouveaux, vous allez tomber sur un porteur du virus et être contaminé. Donc, confiner, ça veut dire réduire drastiquement le nombre de gens que vous croisez. Mais dès qu'on déconfine, l'affaire repart.
Donc, le cœur de la stratégie, vous nous le dites ce matin, Catherine, et le cœur de la stratégie, c'est les tests et c'est une stratégie à revoir. Un dernier mot sur les entreprises. Est-il bien raisonnable de faire revenir tous les salariés dans les entreprises à la rentrée ou faut-il limiter leur nombre et favoriser encore le télétravail?
On verra où on en est à ce moment-là, mais le télétravail, sûrement, c'est une assez bonne chose. Et puis, il va falloir faire attention, mais les entreprises ne sont pas... On voit beaucoup de foyers, de clusters dans les entreprises parce qu'ils sont détectables, mais il y a énormément de contamination en dehors de ces foyers qu'on identifie. Le système d'identification des foyers favorise l'identification dans le monde du travail parce que s'il y a 3 dans une entreprise, ça se voit. Et si une personne contamine 3 personnes éparpillées, la caissière du supermarché, quelqu'un avec qui il a bu un verre et un cousin qu'il a rencontré à un dîner de famille, ça ne va pas faire un foyer parce que ces 3 personnes vont être diagnostiquées indépendamment et on ne va pas savoir que c'est la même contamination.
600 000 tests par semaine aujourd'hui, on peut vraiment faire plus?
Mais surtout, on les fait très mal. On les fait à n'importe qui, n'importe où, n'importe quand et on met beaucoup trop longtemps pour donner les résultats. Donc ça ne sert à rien en fait, on gâche de l'argent.
Merci beaucoup pour votre éclairage ce matin, docteur Catherine Hill, épidémiologiste à l'Institut Gustave Roussy à Villejuif. Bonne journée à vous.
Merci.